Deus qui humanae substantiae, c'est-à-dire autre prière de l'offertoire. On ne mesure jamais assez aujourd'hui la profondeur des crises périlleuses qui ont secoué l'Église au cours des 5 premiers siècles de notre ère. Et les blessures non refermées qui affligent encore les populations sur le plan religieux. La foi chrétienne était alors remise en cause sur des données capitales qui concernaient la divinité du Christ, et notre dernier article a mis en évidence les répercussions immédiates que l'hétérodoxie multiforme pouvait avoir sur le plan liturgique de la messe, et plus précisément, puisque tel est l'objet de notre réflexion, sur la commixtion du vin et de l'eau avant l'offrande, instant essentiel duquel découle toute la suite des rites et des prières de l'action sacrée. Mais après cette longue période troublée, alors que l'Église sûre d'elle-même maintient le mélange du vin et de l'eau dans le calice du salut, il est inévitable que la chrétienté pose d'autres interrogations. La quantité d'eau qui doit être mêlée au vin, le fondement même de la commixtion réalisée, la marque sacrale qui haussera cette eau à la hauteur du vin, préfigure du sang du Christ. Le vin doit être en quantité supérieure à l'eau, afin que la majesté du sang de Jésus-Christ y soit plus abondante que la fragilité du peuple. Ainsi s'exprime en 895 le concile de Tribur, qui ajoute même en son canon 19 les proportions à respecter. 2/3 de vin pour 1/3 d'eau. Doit-on en déduire qu'auparavant les dosages pour commixtion étaient laissés à la discrétion du clergé? Personnellement, je ne le crois pas. Trop de difficultés étaient nées des dérives que les diverses hérésies avaient imposées à cette institution, au point de remettre en cause son existence. Sans aucun doute, s'agit-il d'un rappel à l'ordre, à la fois mesure de sauvegarde prise pour l'Occident chrétien et concrétisation d'une étape évolutive qui, sur le plan de l'expression liturgique, consacre déjà quelques distances avec les usages de l'Orient chrétien. Dans cette dernière partie du monde, en effet, la quantité d'eau mise dans le calice a longtemps égalé celle du vin. Ce qui, précise Jungmann, correspond aux coutumes du monde où naquit l'Église. Cette distance entre Occident et Orient chrétien deviendra faussée au temps de la religion romane. Il est vrai que le vase sacré du Scyphus, qui apparaît encore dans l'Ordo Romanus Primus et dont les dimensions étaient importantes en raison d'une communion généralisée sous les deux espèces, a fait place à un calice de petite dimension. Mais la pensée romano-franque, tout en respectant dans la commixtion le critère de l'union du Christ et de l'Église, énoncé jadis par saint Cyprien, est habitée par un autre esprit plus proche de la représentation du drame du calvaire. Il lui faut donc accentuer l'idée de la fragilité du peuple fidèle et majorer celle de la majesté du Rédempteur. Dès lors, le dosage de l'eau va se réduire progressivement de la modica quantitate au minimum symbolique. L'Ordo Romanus Quintus prescrit en effet post aquae benedictionem ponit cum cochleari 13 gutas aquae, 3 gouttes d'eau. La liturgie des Chartreux est restée fidèle à l'usage de la petite cuillère qui facilite ce dosage minimum. La ritualité romano-franque qui applique ce dosage d'eau aussi restrictif dans la commixtion ne pouvait s'appuyer que sur le support scripturaire mettant en relief la mort du Sauveur. La liturgie byzantine lui a fourni ce support par l'intermédiaire des coutumes gallicanes, le coup de lance du soldat romain perçant le côté du divin supplicié. Ex latere Christi sanguis et aqua, exisse perimetur et ideo pariter commissimus, ut misericors Deus utrumque ad medelam animarum nostrarum sanctificare, dignetur. Les Chartreux sont restés fidèles à cette formulation que l'on trouve plus ample encore dans la liturgie lyonnaise. L'autre courant théologique, représenté par l'oraison Deus qui humane, apparaît dès lors que l'immixtion de l'eau dans le vin est pratiquée à l'autel même. Cette prière, que l'on retrouve à la fête de Noël dans le supplément de l'Adrianum grégorien, figure déjà sous une forme archaïque dans le sacramentaire gélasien. Elle a été adaptée pour son insertion à l'offertoire par l'ajout Per eius aquae et vini mysterium. En raison de cette addition, la présence de cette oraison à l'offertoire autorisée désormais a dépassé la pensée jusque-là émise par saint Cyprien. L'unité du Christ et de l'Église préfigurée par la commission du vin et de l'eau dans la perspective du sacrifice rédempteur. Ce qui est mis en avant, c'est ainsi que l'écrit Hulman, la participation de l'homme à la divinité par l'incarnation du Fils de Dieu. Donnez-nous par le mystère de cette eau et de ce vin d'entrer en partage de la divinité de celui qui daigna se faire participant de notre humanité. Quel geste rituel va concrétiser cette union sacrée ? La bénédiction. Monsieur l'abbé Joly explique. Le signe de croix que fait le célébrant sur l'eau avant de la verser tombe sur nous-mêmes qui sommes symbolisés par l'eau. Le vin représente Jésus-Christ qui n'a besoin d'aucune bénédiction et qui, par son union avec son peuple, ne reçoit aucun bien. On ne le bénit donc pas. Or, il appartiendra au Concile de Trente d'unir ce qui pouvait constituer deux théologies divergentes. Le Saint Concile avertit que l'Église impose aux prêtres de mêler de l'eau au vin à offrir dans le calice, tant parce que le Christ notre Seigneur, à ce qu'on croit, a fait ainsi, que parce que l'eau jaillit de son côté conjointement avec le sang. C'est ce mystère qui est commémoré par ce mélange, et comme les eaux dans l'Apocalypse de saint Jean le signifient, ainsi l'union du peuple fidèle lui-même avec le Christ est ici représentée.